Christophe était dur au mal. Il tenait de son père et de son grand-père leur robuste constitution. On n'était pas douillet dans la famille. Malade ou non, on ne se plaignait jamais, et rien n'était capable de changer quelque chose aux habitudes des deux Kraft, père et fils. Ils sortaient quelque temps qu'il fît, été comme hiver, restaient pendant des heures sous la pluie ou le soleil, quelquefois tête nue et les vêtements ouverts, par négligence ou par bravade, faisaient des lieux sans jamais être là, et regardaient avec une pitié méprisante la pauvre Louisa, qui ne disait rien, mais qui était forcée de s'arrêter, toute blanche, les jambes gonflées et le cœur battant à se briser. Christophe n'était pas loin de partager leur dédain pour sa mère. Il ne comprenait pas qu'on fût malade. Quand il tombait, ou se frappait, ou se coupait, ou se brûlait, il ne pleurait pas, mais il était irrité contre l'objet ennemi. Les brutalités de son père et de ses petits compagnons, les polissons des rues avec qui il se battait, le trempèrent solidement. Il ne craignait pas les coups. Il revint plus d'une fois au logis, avec le nez saignant et des bosses au front. Un jour, il fallut le dégager, presque étouffé, d'une de ces mêlées furieuses où il avait roulé sous son adversaire qui lui cognait avec férocité la tête sur le pavé. Il trouvait cela naturel, étant prêt à faire aux autres ce qu'on lui faisait à lui-même. Cependant, il avait peur d'une infinité de choses, et bien qu'on n'en sût rien, car il était très orgueilleux, rien ne le fit tant souffrir que cette erreur continuelle durant une partie de son enfance. Pendant 2 ou 3 ans surtout, elles sévirent en lui comme une maladie. Il avait peur du mystérieux qui s'abrite dans l'ombre, des puissances mauvaises qui semblent guetter la vie, du grouillement de monstres que tout cerveau d'enfant porte en lui avec épouvante, et mêle à tout ce qu'il voit. Dernier reste sans doute d'une faune disparue, des hallucinations des premiers jours près du néant, du sommeil redoutable dans le ventre de la mer, de l'éveil de la larve au fond de la matière. Il avait peur de la porte du grenier. Elle donnait sur l'escalier et était presque toujours entrebâillée. Quand il devait passer devant, il sentait son cœur battre. Il prenait son élan et sautait sans regarder. Il lui semblait qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose derrière. Les jours où elle était fermée, il entendait distinctement par la chatière entr'ouverte remuer derrière la porte. Ce n'était pas étonnant, car il y avait de gros rats, mais il imaginait un être monstrueux, des os déchiquetés, des chairs comme des haillons, une tête de cheval, des yeux qui font mourir, des formes incohérentes. Il ne voulait pas y penser, et y pensait malgré lui. Il s'assurait d'une main tremblante que le loquet était bien mis, ce qui ne l'empêchait pas de se retourner 10 fois en descendant les marches. Il avait peur de la nuit, au dehors. Il lui arrivait de s'arrêter chez le grand-père ou d'y être envoyé le soir pour quelque commission. Le vieux Kraft habitait un peu en dehors de la ville, la dernière maison sur la route de Cologne. Entre cette maison et les premières fenêtres éclairées de la ville, il y avait 200 ou 300 pas qui paraissaient bien le triple à Christophe. Pendant quelques instants, le chemin faisait un coude où l'on ne voyait rien. La campagne était déserte au crépuscule. La terre devenait noire et le ciel d'une pâleur effrayante. Lorsqu'on sortait des buissons qui entouraient la route et qu'on grimpait sur le talus, on distinguait encore une lueur jaunâtre au bord de l'horizon. Mais cette lueur n'éclairait pas, et elle était plus oppressante que la nuit. Elle faisait l'obscurité plus sombre autour d'elle. C'était une lumière de glas. Les nuages descendaient presque au ras du sol. Les buissons devenaient énormes et bougeaient. Les arbres squelettes ressemblaient à des vieillards grotesques. Les bornes du chemin avaient des reflets de linge livide. L'ombre remuait. Il y avait des nains assis dans les fossés, des lumières dans l'herbe, des vols effrayants dans l'air, des cris stridents d'insectes qui sortaient on ne sait d'où. Christophe était toujours dans l'attente angoissée de quelque excentricité sinistre de la nature. Il courait et son cœur sautait dans sa poitrine. Quand il voyait la lumière dans la chambre de grand-père, il se rassurait. Mais le pire était que souvent, le vieux Kraft n'était pas rentré. Alors c'était plus effrayant encore. Cette vieille maison, perdue dans la campagne, intimidait l'enfant même en plein jour. il oubliait ses craintes quand le grand-père était là. Mais quelquefois, le vieux le laissait seul et sortait sans le prévenir. Christophe n'y avait pas pris garde. La chambre était paisible. Tous les objets étaient familiers et bienveillants. Il y avait un grand lit de bois blanc. Au chevet du lit, une grosse Bible sur une planchette, des fleurs artificielles sur la cheminée, avec les photographies des deux femmes et des 11 enfants. Le vieux avait écrit au bas de chacune d'elles la date de la naissance et celle de la mort. Au mur, des versets encadrés et de mauvais chromos de Mozart et de Beethoven. Un petit piano dans un coin, un violoncelle dans l'autre. Des rayons de livres pêle-mêle, des pipes accrochées et, sur la fenêtre, des pots de géranium. On était comme entouré d'amis. Les pas du vieux allaient et venaient dans la chambre à côté. On l'entendait raboter ou clouer. Il se parlait tout seul, s'appelait imbécile, ou chantait de sa grosse voix, faisant un pot-pourri de bribes de chorale, de leaders sentimentaux, de marches belliqueuses et de chansons à boire. On se sentait à l'abri. Christophe était assis dans le grand fauteuil, près de la fenêtre, un livre sur les genoux. Penché sur les images, il s'absorbait en elles. Le jour baissait, ses yeux devenaient troubles. Il finissait par ne plus regarder et tombait dans une songerie vague. La roue d'un chariot grondait au loin sur la route. Une vache mugissait dans les champs. Les cloches de la ville, lasses et endormies, sonnaient l'angélus du soir. Des désirs incertains, d'obscurs pressentiments, s'éveillaient dans le cœur de l'enfant qui rêvait. Brusquement, Christophe se réveillait, pris d'une sourde inquiétude. Il levait les yeux, la nuit. Il écoutait, le silence. Grand-père venait de sortir. Il avait un frisson. Il se penchait à la fenêtre pour tâcher de le voir encore. La route était déserte. Les choses commençaient à prendre un visage menaçant. Dieu, si elle allait venir. Qui? Il n'aurait su le dire. La chose d'épouvante. Les portes fermaient mal, l'escalier de bois craquait comme sous un pas. L'enfant bondissait, traînait le fauteuil, les deux chaises et la table au coin le plus abrité de la chambre. Il en formait une barrière. Le fauteuil, adossé au mur, une chaise à droite, une chaise à gauche, et la table par devant. Au milieu, il installait une double échelle. Et, juché sur le sommet, avec son livre et quelques autres volumes comme munitions en cas de siège, il respirait, ayant décidé dans son imagination d'enfant que l'ennemi ne pouvait en aucun cas traverser la barrière. Ce n'était pas permis. Mais l'ennemi surgissait parfois du livre même. Parmi les vieux bouquins achetés au hasard par le grand-père, il y en avait avec des images qui faisaient sur l'enfant une impression profonde. Elles l'attiraient et l'effrayaient. C'étaient des visions fantastiques, des tentations de Saint-Antoine ou des squelettes d'oiseaux fiantent dans des carafes, où des myriades d'œufs s'agitent comme des vers dans des grenouilles éventrées, où des têtes marchent sur des pattes, où des derrières jouent de la trompette et où des ustensiles de ménage et des cadavres de bêtes s'avancent gravement, enveloppés de grands draps, avec des révérences de vieilles dames. Christophe en avait horreur, et toujours y revenait, ramené par son dégoût. Il les regardait longuement, et jetait de temps en temps un œil furtif autour de lui pour voir ce qui remuait dans les plis des rideaux. Une image d'écorchée dans un ouvrage d'anatomie lui était plus odieuse encore. Il tremblait de tourner la page quand il approchait de l'endroit du livre où elle se trouvait. Ses informes bariolages avaient une intensité prodigieuse sur lui. La puissance de création, inhérente au cerveau des enfants, suppléait aux pauvretés de la mise en scène. Il ne voyait pas de différence entre ces barbouillages et la réalité. La nuit, ils agissaient plus fortement sur ses rêves que les images vivantes aperçues dans le jour. Il avait peur du sommeil. Pendant plusieurs années, les cauchemars empoisonnèrent son repos. Il errait dans des caves et il voyait entrer par le soupirail l'écorché grimaçant. Il était dans une chambre, seul, et il entendait un frôlement de pas dans le corridor. Il se jetait sur la porte pour la fermer. Il avait juste le temps d'en saisir la poignée, mais on la tirait du dehors. Il ne pouvait tourner la clé. Il faiblissait, il appelait au secours. Et de l'autre côté, il savait bien qui voulait entrer. Il était au milieu des siens, et soudain leur visage changeait. Ils faisaient des choses folles. Il lisait tranquillement, et il sentait qu'un être invisible était autour de lui. Il voulait fuir, il se sentait lié. Il voulait crier, il était bâillonné. Une étreinte répugnante lui serrait le cou. Il s'éveillait, suffoquant, claquant des dents, et il continuait de trembler longtemps après s'être réveillé. Il ne parvenait pas à chasser son angoisse. La chambre où il dormait était un réduit sans fenêtre et sans porte. Un vieux rideau, accroché par une tringle au-dessus de l'entrée, le séparait seulement de la chambre des parents. L'air épais l'étouffait. Ses frères, qui couchaient dans le même lit, lui donnaient des coups de pied. Il avait la tête brûlante et il était en proie à une demi-hallucination où se répercutaient tous les petits soucis du jour, indéfiniment grossis. Dans cet état d'extrême tension nerveuse, voisin du cauchemar, la moindre secousse lui était une souffrance. Le craquement du plancher lui causait un effroi. La respiration de son père s'enflait d'une façon fantastique. Elle ne paraissait plus être un souffle humain. Ce bruit monstrueux lui faisait horreur. Il semblait que ce fût une bête qui était couchée là. La nuit l'écrasait, elle ne finirait jamais. Ce serait toujours ainsi. Il y avait des mois qu'il était là. Il haletait, il se soulevait à demi sur son lit, il s'asseyait, il essuyait du bras de sa chemise sa figure couverte de sueur. Parfois il poussait son frère Rodolphe pour le réveiller, mais l'autre grognait, tirait à lui le reste des couvertures et se rendormait solidement. Il restait ainsi dans l'angoisse de la fièvre jusqu'à ce qu'une raie pâle parût sur le plancher au bas du rideau. Cette blancheur timide de l'aube lointaine faisait soudain descendre en lui la paix. Il la sentait se glisser dans la chambre, alors que nul encore n'aurait pu la distinguer de l'ombre. Aussitôt sa fièvre tombait. Son sang s'apaisait comme un fleuve débordé qui rentre dans son lit. Une chaleur égale coulait dans tout son corps et ses yeux brûlés d'insomnie se fermaient. Le soir, il voyait revenir l'heure du sommeil avec effroi. Il se promettait de n'y pas céder, de veiller toute la nuit, par terreur des cauchemars. Mais la fatigue finissait par l'emporter, et c'était toujours quand il s'y attendait le moins que les monstres revenaient. Nuit redoutable, si douce à la plupart des enfants, si terrible à certains d'entre eux. Il avait peur de dormir, il avait peur de ne pas dormir. Sommeil ou veille, il était entouré par des images monstrueuses, les fantômes de son esprit, les larves qui flottent dans le demi-jour crépusculaire de l'enfance, comme dans le clair-obscur sinistre de la maladie. Mais ces terreurs imaginaires devaient bientôt s'effacer devant la grande épouvante, celle qui ronge tous les hommes et que la sagesse s'évertue vainement à oublier ou à nier, la mort. Un jour, en furetant dans un placard, il met la main sur des objets qu'il ne connaissait pas. Une robe d'enfant, une toque rayée. Il les apporta triomphalement à sa mère, qui, au lieu de lui sourire, prit une mine fâchée et lui ordonna de les reporter où il les avait pris. Comme il tardait à obéir, en demandant pourquoi, elle les lui arracha des mains sans répondre et les serra sur un rayon où il ne pouvait atteindre. Très intrigué, il la pressa de questions. Elle finit par dire que c'était à un petit frère qui était mort avant que lui-même vînt au monde. Il en fut atterré. Jamais il n'avait entendu parler de cela. Il resta un moment silencieux, puis il tâcha d'en savoir plus. Sa mère semblait distraite. Elle dit cependant qu'il se nommait Christophe comme lui, mais qu'il était plus sage. Il lui fit d'autres questions, mais elle n'aimait pas à répondre. Elle dit qu'il était au ciel et qu'il priait pour eux tous. Christophe n'en put rien tirer de plus. Elle lui ordonna de se taire et de la laisser travailler. Elle parut s'absorber en effet dans sa couture. Elle avait l'air soucieuse et ne levait pas les yeux. Mais après quelque temps, elle le regarda dans le coin où il s'était retiré pour bouder, se remit à sourire et lui dit doucement d'aller jouer dehors. Ces bribes de conversation agitèrent profondément Christophe. Ainsi, il y avait eu un enfant, un petit garçon de sa mère, tout comme lui, qui avait le même nom, qui était presque pareil, et qui était mort. Mort, Il ne savait pas au juste ce que c'était, mais c'était quelque chose d'affreux. Et jamais on ne parlait de cet autre Christophe. Il était tout à fait oublié. Ce serait donc de même pour lui s'il mourait à son tour? Cette pensée le travaillait encore le soir quand il se trouva à table avec toute sa famille et quand il les vit rire et parler de choses indifférentes. On pourrait donc être joyeux après qu'il serait mort? Oh, il n'aurait jamais cru que sa mère fût assez égoïste pour rire après la mort de son petit garçon. Il les détestait tous. Il avait envie de pleurer sur lui-même, sur sa propre mort, d'avance. En même temps, il aurait voulu poser une foule de questions, mais il n'osait pas. Il se souvenait du ton sur lequel sa mère lui avait imposé silence. Enfin, il n'éteint plus, et comme il se couchait, il demanda à Louisa, qui venait l'embrasser, « Maman, est-ce qu'il couchait dans mon lit ?» La pauvre femme tressaillit, et d'une voix qu'elle tâchait de rendre indifférente, elle demanda « Qui ?» « Le petit garçon qui est mort, » dit Christophe en baissant la voix. Les mains de sa mère le serrèrent brusquement. « Tais-toi, tais-toi, » dit-elle. Sa voix tremblait. Christophe, qui avait la tête appuyée contre sa poitrine, entendit son cœur qui battait. Il y eut un instant de silence, puis elle dit « Il ne faut plus jamais parler de cela, mon chéri. Dors tranquillement. Non, ce n'est pas son lit. » Elle l'embrassa. Il crut que sa joue était mouillée. Il aurait voulu en être sûr. Il était un peu soulagé, elle avait donc du chagrin. Pourtant, il en douta de nouveau, l'instant d'après, quand il l'entendit dans la chambre à côté, parler d'une voix tranquille, sa voix de tous les jours. Qu'est-ce qui était vrai, de maintenant ou de tout à l'heure? Il se tourna longtemps dans son lit, sans trouver de réponse. Il aurait voulu que sa mère eût de la peine. Sans doute, il eût été triste de penser qu'elle était triste. Mais cela lui aurait fait, malgré tout, du bien. Il se serait senti moins seul. Il s'endormit, et le lendemain n'y pensa plus. Quelques semaines après, un des gamins avec qui il jouait dans la rue ne vint pas à l'heure habituelle. Un du groupe dit qu'il était malade, et l'on s'accoutuma à ne plus le voir au jeu. On avait l'explication, c'était tout simple. Un soir, Christophe était couché de bonne heure. Et du réduit où était son lit, il voyait la lumière dans la chambre de ses parents. On frappa à la porte. Une voisine vint causer. Il écouta distraitement, se contant une histoire suivant son habitude. Les mots de la conversation ne lui arrivaient pas tous. Brusquement, il entendit la voisine qui disait qu'il était mort. Tout son sang s'arrêta, car il avait compris de qui il s'agissait. Il écouta, retenant son souffle. Ses parents s'exclamaient. La voix bruyante de Melchior cria « Christophe, entends-tu? Le pauvre Fritz est mort. » Christophe fit un effort et répondit d'un ton tranquille « Oui, papa. » Il avait la poitrine serrée. Melchior revint à la charge. « Oui, papa, voilà tout ce que tu trouves à dire. Cela ne te fait pas de peine ?» Louisa, qui comprenait l'enfant, fit « Chut, laisse-le dormir. » Et l'on parla plus bas. Mais Christophe, l'oreille tendue, épiait tous les détails. La fièvre typhoïde, les bains froids, le délire, la douleur des parents. Il ne pouvait plus respirer. Une boule l'étouffait, lui montait dans le cou. Il frissonnait. Toutes ces horribles choses se gravaient dans sa tête. Surtout, il retint que le mal était contagieux. C'est-à-dire qu'il pourrait mourir aussi de la même façon. Et l'épouvante le glaçait. Car il se rappelait qu'il avait donné la main à Fritz la dernière fois qu'il l'avait vu, et que dans la journée même, il avait passé devant sa maison. Cependant, il ne faisait aucun bruit, pour ne pas être obligé de parler. Et quand son père lui demanda, après le départ de la voisine, « Christophe, dors-tu ? » il ne répondit pas. Il entendit Melchior qui disait à Louisa, « Cet enfant n'a pas de cœur. » Louisa ne répliqua rien, mais un moment après, elle vint doucement soulever le rideau et regarda le petit lit. Christophe n'eut que le temps de fermer les yeux et d'imiter le souffle régulier qu'il entendait à ses frères quand ils dormaient. Louisa s'éloigna sur la pointe des pieds. Qu'il eût voulu la retenir, qu'il eût voulu lui dire combien il avait peur, lui demander de le sauver, de le rassurer au moins. Mais il craignait qu'on se moquât de lui, qu'on le traitât de lâche. Et puis, il savait trop déjà que tout ce qu'on pourrait dire ne servirait à rien. et pendant des heures il resta plein d'angoisse, croyant sentir le mal qui se glissait en lui, des douleurs dans la tête, une gêne au cœur, et pensant, terrifié, « C'est fini, je suis malade, je vais mourir, je vais mourir. » Une fois, il se dressa dans son lit, appela sa mère à voix basse, mais il dormait et il n'osa les réveiller. Depuis ce temps, son enfance fut empoisonnée par l'idée de la mort. Ses nerfs le livraient à toutes sortes de petits maux sans cause, des oppressions, des élancements, des étouffements soudains. Son imagination s'affolait devant ses douleurs et croyait voir en chacune d'elles la bête meurtrière qui lui prendrait sa vie. Que de fois il souffrit l'agonie à quelques pas de sa mère, assise tout auprès de lui, sans qu'elle en devinât rien. Car, dans sa lâcheté, il avait le courage de renfermer en lui cette terreur par un bizarre mélange de sentiments. La fierté de ne pas recourir aux autres, la honte d'avoir peur, les scrupules d'une affection qui ne veut pas inquiéter. Mais il pensait sans cesse, « Cette fois je suis malade, je suis gravement malade. C'est une angine qui commence. » Il avait retenu ce mot d'angine au hasard. « Mon Dieu, pas cette fois !» Il avait des idées religieuses. Il croyait volontiers ce que lui disait sa mère, que l'âme après la mort montait devant le Seigneur, et que si elle était pieuse, elle entrait dans le jardin du paradis. Mais il était beaucoup plus effrayé qu'attiré par ce voyage. Il n'enviait pas du tout les enfants que Dieu, par récompense à ce que disait sa mère, enlevait au milieu de leur sommeil et rappelait à lui sans les avoir fait souffrir. Il tremblait au moment de s'endormir que Dieu n'eût cette fantaisie à son égard. Ce devait être terrible de se sentir soudain détaché de la tiédeur du lit et entraîné dans le vide, mis en présence de Dieu. Il se figurait Dieu comme un soleil énorme qui parlait avec une voix de tonnerre. Quel mal cela devait faire! Cela brûlait les yeux, les oreilles, l'âme entière. Puis Dieu pouvait punir, on ne savait jamais. D'ailleurs, cela n'empêchait pas toutes les autres horreurs qu'il ne connaissait pas bien, mais qu'il avait pu deviner par les conversations. Le corps dans une boîte, tout seul au fond d'un trou, perdu au milieu de la foule de ce dégoûtant cimetière où on l'emmenait prier. Dieu, Dieu, quelle tristesse! Et pourtant, ce n'était pas gai de vivre, de voir le père ivrogne, d'être brutalisé, de souffrir de tant de façons des méchancetés des autres enfants, de la pitié insultante des grands, et de n'être compris par personne, même pas par sa mère. Tout le monde vous humilie, personne ne vous aime. On est tout seul, et l'on compte si peu. Oui, mais c'était cela même qui lui donnait envie de vivre. Il sentait en lui une force bouillonnante de colère. Chose étrange que cette force. Elle ne pouvait rien encore. Elle était comme lointaine, bâillonnée, emmaillotée, paralysée. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle serait plus tard. Mais elle était en lui. Il en était sûr. Elle s'agitait et grondait. Demain, demain, comme elle prendrait sa revanche. Il avait le désir enragé de vivre, pour se venger de tout le mal, de toutes les injustices, pour punir les méchants, pour faire de grandes choses. Oh, que je vive seulement! Il réfléchissait un peu. Seulement jusqu'à 18 ans. D'autres fois, il allait jusqu'à 21. C'était l'extrême limite. Il croyait que cela lui suffirait pour dominer le monde. Il pensait à ces héros qui lui étaient chers, à Napoléon, à cet autre plus lointain, mais qu'il aimait le mieux, à Alexandre le Grand. Sûrement, il serait comme eux, si seulement il vivait encore 12 ans, 10 ans. Il ne songeait pas à plaindre ceux qui mouraient à 30. Ceux-là étaient des vieux. Ils avaient joui de la vie, c'était leur faute, si elle était manquée. Mais mourir maintenant, quel désespoir! C'est trop malheureux de disparaître tout petit et de rester pour toujours, dans la pensée des gens, un petit garçon à qui chacun se croit le droit de faire des reproches. Il en pleurait de rage, comme s'il était déjà mort. Cette angoisse de la mort tortura des années de son enfance, seulement corrigée par le dégoût de la vie. Au milieu de ces lourdes ténèbres, dans la nuit étouffante qui semblait s'épaissir d'heure en heure, commença de briller, comme une étoile perdue dans les sombres espaces, la lumière qui devait illuminer sa vie, la divine musique. Grand-père venait de donner à ses enfants un vieux piano dont un de ses clients l'avait prié de le débarrasser et que sa patiente ingéniosité avait remis à peu près en état. Le cadeau n'avait pas été très bien accueilli. Louisa trouvait que la chambre était déjà bien assez petite, sans l'encombrer encore. Et Melchior dit que papa Jean-Michel ne s'était pas ruiné. C'était du bois à brûler. Seul le petit Christophe fut joyeux du nouveau venu, sans bien savoir pourquoi. Il lui semblait que c'était une boîte magique, pleine d'histoires merveilleuses, comme dans ce volume des Mille et une nuits, dont le grand-père lui lisait de temps en temps quelques pages, qui les enchantaient tous les deux. Il avait entendu son père, pour essayer les notes, en faire sortir une petite pluie d'arpèges, pareille à celle qu'un souffle de vent tiède fait tomber, après une averse, des branches mouillées d'un bois. Il avait battu des mains et crié « Encore !» Mais Melchior, dédaigneusement, ferma le piano, disant qu'il ne valait rien. Christophe n'insista plus. Il rôdait sans cesse autour de l'instrument. Et dès qu'on avait le dos tourné, il soulevait le couvercle et poussait une touche, comme il eût remué du doigt la carapace verte de quelque gros insecte. Il voulait faire sortir la bête enfermée là. Quelquefois, dans sa hâte, il frappait un peu trop fort, et sa mère lui criait « Ne te tiendras-tu pas tranquille, ne touche pas à tout !» Ou bien il se pinçait en refermant la boîte, et il faisait de piteuses grimaces en suçant son doigt meurtri. Maintenant, sa plus grande joie est quand sa mère doit passer la journée en service ou faire une course en ville. Il écoute ses pas descendre dans l'escalier. Les voilà dans la rue. Il s'éloigne, il est seul. Il ouvre le piano, il approche une chaise, il se juche dessus. Ses épaules arrivent à hauteur du clavier. C'est assez pour ce qu'il veut. Pourquoi attend-il d'être seul? Personne ne l'empêcherait de jouer, pourvu qu'il ne fît pas trop de bruit. Mais il a honte devant les autres, il n'ose pas. Et puis on cause, on se remue, cela gâte le plaisir. C'est tellement plus beau quand on est seul. Christophe retient son souffle pour que ce soit plus silencieux encore, et aussi parce qu'il est un peu ému, comme s'il allait tirer un coup de canon. Le cœur lui bat en appuyant le doigt sur la touche. Quelquefois il le relève, après l'avoir enfoncé à moitié, pour le poser sur une autre. Sait-on ce qui va sortir de celle-ci, plutôt que de celle-là? Tout à coup, le son monte. Il y en a de profonds, il y en a d'aigus, il y en a qui tintent, il y en a d'autres qui grondent. L'enfant les écoute longuement, un à un, diminuer et s'éteindre. Ils se balancent comme les cloches, lorsqu'on est dans les champs, et que le vent les apporte et les éloigne tour à tour. Puis, quand on prête l'oreille, on entend dans le lointain d'autres voix différentes qui se mêlent et tournent, ainsi que des vols d'insectes. Elles ont l'air de vous appeler, de vous attirer loin, loin, de plus en plus loin, dans les retraites mystérieuses où elles plongent et s'enfoncent. Les voilà disparues. Non, elles murmurent encore. Un petit battement d'ailes. Que tout cela est étrange. Ce sont comme des esprits. Qu'ils obéissent ainsi, qu'ils soient tenus captifs dans cette vieille caisse, voilà qui ne s'explique point. Mais le plus beau de tout, c'est quand on met deux doigts sur deux touches à la fois. Jamais on ne sait au juste ce qui va se passer. Quelquefois, les deux esprits sont ennemis. Ils s'irritent, ils se frappent, ils se haïssent, ils bourdonnent d'un air vexé. Leur voix s'enfle. Elle crie, tantôt avec colère, tantôt avec douceur. Christophe adore ce jeu. On dirait des monstres enchaînés qui mordent leurs liens, qui heurtent les murs de leur prison. Il semble qu'ils vont les rompre et faire irruption au dehors, comme ceux dont parle le livre de contes, les génies emprisonnés dans des coffrets arabes sous le sceau de Salomon. D'autres vous flattent, ils tâchent de vous enjôler, mais ils ne demandent qu'à mordre, et ils ont la fièvre. Christophe ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils attirent et le troublent. Ils le font presque rougir. Et d'autres fois encore, il y a des notes qui s'aiment. Les sons s'enlacent, comme on fait avec les bras quand on se baise. Ils sont gracieux et doux. Ce sont les bons esprits, Ils ont des figures souriantes et sans rides. Ils aiment le petit Christophe, et le petit Christophe les aime. Il a les larmes aux yeux de les entendre, et il ne se lasse pas de les rappeler. Ils sont ses amis, ses chers, ses tendres amis. Ainsi l'enfant se promène dans la forêt des sons, et il sent autour de lui des milliers de forces inconnues qui le guettent et l'appellent pour le caresser ou pour le dévorer. Un jour, Melchior le surprit. Il le fit tressauter de peur avec sa grosse voix. Christophe, se croyant en faute, porta ses mains à ses oreilles pour les préserver des redoutables claques. Mais Melchior ne grondait pas, par extraordinaire. Il était de bonne humeur, il riait. « Cela t'intéresse donc, gamin ? » demanda-t-il en lui tapant amicalement la tête. « Veux-tu que je t'apprenne à jouer ?» S'il le voulait, il murmura que oui, ravi. Ils s'assirent tous deux devant le piano, Christophe juché, cette fois, sur une pile de gros livres. Et, très attentif, il prit sa première leçon. Il apprit d'abord que ces esprits bourdonnants avaient de singuliers noms, des noms à la chinoise, d'une seule syllabe, ou même d'une seule lettre. Il en fut étonné, il les imaginait autres. De beaux noms caressants, comme les princesses des contes de fées. Il n'aimait pas la familiarité avec laquelle son père en parlait. Du reste, quand Melchior les évoquait, ce n'étaient plus les mêmes êtres. Il prenait un air indifférent en se déroulant sous ses doigts. Cependant, Christophe fut content d'apprendre les rapports qu'il y avait entre eux, leur hiérarchie, ces gammes qui ressemblent à un roi commandant une armée ou à une troupe de nègres attachés à la file. Il vit avec étonnement que chaque soldat ou chaque nègre pouvait devenir à son tour monarque ou tête de colonne d'une troupe semblable, et même qu'on pouvait en dérouler des bataillons entiers du haut en bas du clavier. Il s'amusait à tenir le fil qui les faisait marcher, mais tout cela était devenu plus puéril que ce qu'il voyait d'abord. Il ne retrouvait plus sa forêt enchantée. Pourtant, il s'appliquait, car ce n'était pas ennuyeux, et il était surpris de la patience de son père. Melchior ne se lassait point. Il lui faisait recommencer la même chose 10 fois. Christophe ne s'expliquait pas qu'il se donnât tant de peine. Son père l'aimait donc, qu'il était bon. L'enfant travaillait, le cœur plein de reconnaissance. Il eût été moins satisfait s'il avait su ce qui se passait dans la tête de son maître. À partir de ce jour, Melchior l'emmena chez un voisin, où l'on avait organisé 3 fois par semaine des séances de musique de chambre. Melchior tenait le premier violon, Jean-Michel le violoncelle. Les deux autres étaient un employé de banque et le vieil horloger de la Schillerstrasse. De temps en temps, le pharmacien venait se joindre à eux et apporter sa flûte. On arrivait à 5 heures et on restait jusqu'à 9. Après chaque morceau, on absorbait de la bière. Des voisins entraient et sortaient, écoutaient sans mot dire, debout contre le mur, hochaient la tête, remuaient le pied en mesure et remplissaient la chambre de nuages de tabac. Les pages succédaient aux pages, les morceaux aux morceaux, sans que rien pût lasser la patience des exécutants. Ils ne parlaient pas, contractés d'attention, le front plissé, poussant de loin en loin un grognement de plaisir, parfaitement incapables d'ailleurs, non seulement d'exprimer la beauté d'un morceau, mais même de la sentir. Ils ne jouaient ni très juste, ni très en mesure, mais ils ne déraillaient jamais, et suivaient fidèlement les nuances qui étaient marquées. Ils avaient cette facilité musicale qui se contente à peu de frais, cette perfection dans la médiocrité qui abonde dans la race qu'on dit la plus musicienne du monde. Ils en avaient aussi la voracité de goût, peu difficile sur la qualité des aliments, pourvu que la quantité y soit, ce robuste appétit pour qui toute musique est bonne, d'autant plus qu'elle est plus substantielle, et qui ne fait pas de différence entre Brahms et Beethoven, ou, dans l'œuvre d'un même maître, entre un concerto creux et une sonate émouvante, parce qu'ils sont de la même pâte. Christophe se tenait à l'écart, dans un coin qui lui appartenait, derrière le piano. Nul ne pouvait l'y déranger, car il fallait pour y entrer qu'il marchât à 4 pattes. Il y faisait à moitié nuit, et l'enfant avait juste la place de s'y tenir, couché sur le plancher en se recroquevillant. La fumée du tabac lui entrait dans les yeux et la gorge, et aussi la poussière. Il y en avait de gros flocons, comme des toisons de brebis, mais il n'y prenait pas garde, et écoutait gravement, assis sur ses jambes, à la turque, et élargissant les trous dans la toile du piano avec ses petits doigts sales. Il n'aimait pas tout ce qu'on jouait, mais rien de ce qu'on jouait ne l'ennuyait, et il ne cherchait jamais à formuler ses opinions, car il croyait qu'il était trop petit et qu'il n'y connaissait rien. Tantôt la musique l'endormait, tantôt elle le réveillait. En aucun cas elle n'était désagréable. Sans qu'il le sût, c'était presque toujours la bonne musique qui l'excitait. Sûr de n'être point vu, il faisait des grimaces avec toute sa figure. Il fronçait le nez, il serrait les dents, ou il tendait la langue. Il faisait des yeux colères ou langoureux. Il avait envie de marcher, de frapper, de réduire le monde en poudre. Il se démenait si bien qu'à la fin une tête se penchait au-dessus du piano et lui criait « Eh bien, gamin, est-ce que tu es fou? Veux-tu laisser ce piano? Veux-tu ôter ta main? Je vais te tirer les oreilles !» ce qui le rendait penaud et furieux. Pourquoi venait-on lui troubler son plaisir? Il ne faisait pas de mal. Il fallait qu'on le persécutât toujours. Son père faisait chorus. On lui reprochait de faire du bruit, de ne pas aimer la musique. Il finissait par le croire. On eût bien étonné les honnêtes fonctionnaires, occupés à moudre des concertos, si on leur avait dit que le seul de la société qui sentit vraiment la musique était ce petit garçon. Si l'on voulait qu'il se tînt tranquille, pourquoi lui jouait-on des airs qui font marcher? Il y avait dans ses pages des chevaux emportés, des épées, les cris de la guerre, l'orgueil du triomphe. Et l'on aurait voulu qu'il restât, ainsi que, à branler la tête et à marquer la mesure avec son pied. On n'avait qu'à lui jouer des rêveries placides ou de ces pages bavardes qui parlent pour ne rien dire. Il n'en manque pas en musique. Ce morceau de Goldmark, par exemple, dont le vieil horloger disait tout à l'heure avec un sourire ravi, « C'est joli. Il n'y a pas d'aspérité. Tous les angles sont arrondis. » Le petit était bien tranquille alors. Il s'assoupissait. Il ne savait pas ce qu'on jouait. Même il finissait par ne plus l'entendre. Mais il était heureux. Ses membres s'engourdissaient, il rêvassait. Ses rêves n'étaient pas des histoires suivies. Il n'avait ni queue ni tête. À peine s'il voyait de temps en temps une image précise. Sa mère faisant un gâteau et enlevant avec un couteau la pâte restée entre ses doigts. Un radeau qu'il avait aperçu la veille nageant dans le fleuve. Un fouet qu'il voulait faire avec une lanière de saule. Dieu sait pourquoi ses souvenirs lui revenaient à présent. Mais le plus souvent, il ne voyait rien du tout. Et pourtant, il sentait une infinité de choses. C'est comme s'il y avait une masse de choses très importantes qu'on ne pouvait pas dire ou qu'il était inutile de dire parce qu'on les savait bien et parce que cela était ainsi depuis toujours. Il y en avait de tristes, de mortellement tristes, mais elles n'avaient rien de pénible comme celles qu'on rencontre dans la vie. Elles n'étaient pas laides et avilissantes comme lorsque Christophe avait reçu des gifles de son père, ou qu'il songeait, le cœur malade de honte, à quelque humiliation. Elle remplissait l'esprit d'un calme mélancolique. Et il y en avait de lumineuses, qui répandaient des torrents de joie. Et Christophe pensait, « Oui, c'est ainsi, ainsi que je ferai plus tard. » Il ne savait pas du tout comment était ainsi, ni pourquoi il le disait, mais il sentait qu'il fallait qu'il le dît, et que c'était clair comme le jour. Il entendait le bruit d'une mer dont il était tout proche, séparée seulement par une muraille de dunes. Christophe n'avait nulle idée de ce qu'était cette mer et de ce qu'elle voulait de lui, mais il avait conscience qu'elle monterait par-dessus les barrières et qu'alors, alors ce serait bien, il serait tout à fait heureux. Rien qu'à l'entendre, à se bercer au bruit de sa grande voix, tous les petits chagrins et les humiliations s'apaisaient. Il restait toujours triste, mais il n'était plus honteux ni blessant. Tout semblait naturel et presque plein de douceur. Bien souvent, de médiocres musiques lui communiquaient cette ivresse. Ceux qui les avaient écrites étaient de pauvres airs qui ne pensaient à rien qu'à gagner de l'argent ou à se faire illusion sur le vide de leur vie en assemblant des notes suivant les formules connues ou, pour être originaux, à l'encontre des formules. Mais il y a dans les sons, même manié par un sceau, une telle puissance de vie qu'ils peuvent déchaîner des orages dans une âme naïve. Peut-être même les rêves que suggèrent les sots sont-ils plus mystérieux et plus libres que ceux que souffle une impérieuse pensée qui vous entraîne de force, car le mouvement avide et le creux bavardage ne dérangent pas l'esprit de sa propre contemplation. Ainsi l'enfant restait, oublié, oubliant dans le coin du piano, jusqu'à ce que brusquement il sentit des fourmis lui monter dans les jambes, et il se souvenait alors qu'il était un petit garçon avec des ongles noirs et qu'il frottait son nez contre le mur en tenant ses pieds entre ses mains. Le jour où Melchior, entré sur la pointe des pieds, avait surpris l'enfant assis devant le clavier trop haut, il l'avait observé, et une illumination lui avait traversé l'esprit. Un petit prodige! Comment n'y avait-il pas pensé? Quelle fortune pour une famille! Sans doute il avait cru que ce gamin ne serait qu'un petit rustre, comme sa mère, mais il n'en coûtait rien d'essayer. Voilà qu'il serait une chance. Il le promènerait en Allemagne, peut-être même au dehors. Ce serait une vie joyeuse et noble avec cela. Melchior ne manquait jamais de chercher la noblesse cachée de tous ses actes, et il était rare qu'il n'arrivât pas à la trouver. Fort de cette assurance, aussitôt après le souper, dès la dernière bouchée prise, il plaqua de nouveau l'enfant devant le piano et lui fit répéter la leçon de la journée jusqu'à ce que ses yeux se fermassent de fatigue. Puis le lendemain, trois fois. Puis le surlendemain, et tous les jours depuis. Christophe se lassa vite. Puis il s'ennuya à mourir. Enfin, il n'y tint plus et tenta de se révolter. Cela n'avait pas de sens, ce qu'on lui faisait faire. Il ne s'agissait que de courir le plus vite possible sur les touches, en escamotant le pouce, ou d'assouplir le quatrième doigt, qui restait gauchement collé entre ses deux voisins. Il en avait mal au nerf, et cela n'avait rien de beau. Fini des résonances magiques, des monstres fascinants, de l'univers de songes pressenti un moment. Les gammes et les exercices se succédaient, secs, monotones, insipides, plus insipides que les conversations que l'on avait à table, et qui toujours roulaient sur les plats, et toujours sur les mêmes plats. L'enfant commença par écouter distraitement les leçons de son père. Semoncé rudement, il continua de mauvaise grâce. Les bourrades ne se firent pas attendre. Il y opposa la plus méchante humeur. Ce qui y mit le comble, ce fut un soir d'entendre Melchior révéler ses projets dans la chambre à côté. Ainsi, c'était pour l'exhiber comme un animal savant qu'on l'ennuyait, qu'on l'obligeait tout le jour à remuer des morceaux d'ivoire. Il n'avait même plus le temps d'aller faire visite à son cher fleuve. Qu'est-ce qu'on avait donc à s'acharner contre lui? Il était indigné, blessé dans son orgueil et dans sa liberté. Il décida qu'il ne jouerait plus de musique, ou le plus mal possible, qu'il découragerait son père. Ce serait un peu dur, mais il fallait sauver son indépendance. Dès la leçon suivante, il tenta d'exécuter son plan. Il s'appliqua consciencieusement à taper à côté des notes et à rater tous ses traits. Melchior cria, puis il hurla, et les coups se mirent à pleuvoir. Il avait une forte règle. À chaque fausse note, il en frappait les doigts de l'enfant, en même temps qu'il lui vociférait à l'oreille à le rendre sourd. Christophe grimaçait de douleur. Il se mordait les lèvres pour ne pas pleurer, et, stoïquement, il continuait à accrocher les notes de travers, rentrant sa tête dans ses épaules à chaque coup qu'il sentait venir. Mais le système était mauvais, et il ne tarda pas à s'en apercevoir. Melchior était aussi têtu que lui, et il jura que quand ils y passeraient deux jours et deux nuits, il ne lui ferait grâce d'aucune note avant qu'elle eût été exécutée correctement. Christophe mettait trop de conscience à ne jouer jamais juste, et Melchior commençait à soupçonner la ruse, en voyant à chaque trait la petite main retomber lourdement de côté avec une mauvaise volonté évidente. Les coups de règle redoublèrent. Christophe ne sentait plus ses doigts. Il pleurait piteusement, en silence, reniflant, ravalant ses sanglots et ses larmes. Il comprit qu'il n'avait rien à gagner à continuer ainsi et qu'il lui fallait prendre un parti désespéré. Il s'arrêta et, tremblant d'avance à l'idée de l'orage qu'il allait déchaîner, il dit courageusement « Papa, je ne veux plus jouer. » Melchior fut suffoqué. « Quoi ? Quoi ? » cria-t-il. Il lui secouait le bras à le briser. Christophe, tremblant de plus en plus et levant le coude pour se garder des coups, continua « Je ne veux plus jouer. D'abord parce que je ne veux pas être tapé, et puis il ne put achever. Une énorme gifle lui coupa la respiration. Melchior hurlait « Ah, tu ne veux pas être tapé. Tu ne veux pas !» C'était une grêle de coups. Christophe braillait au travers de ses sanglots. « Et puis, je n'aime pas la musique. Je n'aime pas la musique !» Il se laissa glisser de son siège. Melchior l'y rassit brutalement, et il lui frappait les poignets contre le clavier. Il criait « Tu joueras !» Et Christophe criait « Non, non, je ne jouerai pas !» Melchior dut y renoncer. Il le mit à la porte, lui disant qu'il n'aurait pas à manger de tout le jour, de tout le mois, qu'il n'eût joué ses exercices sans en manquer un seul. Il le poussa dehors d'un coup de pied au derrière et fit battre sur lui la porte. Christophe se trouva dans l'escalier, le sale et obscur escalier aux marches vermoulues. Un courant d'air venait par le carreau brisé d'une lucarne. L'humidité suintait au mur. Christophe s'assit sur une des marches grasses. Son cœur sautait dans sa poitrine, de colère et d'émotion. Tout bas, il injuriait son père. « Animal, voilà ce que tu es, un animal, un grossier personnage, une brute, oui, une brute, et je te hais, je te hais. Oh, je voudrais que tu fusses mort, que tu fusses mort !» Sa poitrine se gonflait. Il regardait désespérément l'escalier gluant, la toile d'araignée que le vent balançait au-dessus de la vitre cassée. Il se sentait seul, perdu dans son malheur. Il regarda le vide entre les barreaux de la rampe. S'il se jetait en bas, ou bien par la fenêtre. Oui, s'il se tuait pour les punir. Quel remords ils auraient! Il entendait le bruit de sa chute dans l'escalier. La porte d'en haut s'ouvrait précipitamment. Des voix angoissées criaient « Il est tombé! Il est tombé !» Les pas dégringolaient l'escalier. Son père, sa mère, se jetaient sur son corps en pleurant. Elle sanglotait « C'est ta faute! C'est toi qui l'as tué !» Lui agitait les bras, se jetait à genoux, se frappait la tête contre la rampe, criant « Je suis un misérable! Je suis un misérable !» Ce spectacle adoucissait sa peine. Il était sur le point d'avoir pitié de ceux qui le pleuraient. Mais il pensait que c'était bien fait pour eux, et il savourait sa vengeance. Quand il eut terminé son histoire, il se retrouva en haut de l'escalier, dans l'ombre. Il regarda encore une fois en bas, et il n'eut plus du tout envie de s'y jeter. Même, il eut un petit frisson, et s'éloigna du bord, en pensant qu'il pourrait tomber. Alors il se sentit décidément prisonnier, comme un pauvre oiseau en cage, prisonnier pour toujours, sans aucune ressource que de se casser la tête et de se faire bien mal. Il pleura, et il se frottait les yeux avec ses petites mains sales, si bien qu'en un moment il fut tout barbouillé. Tout en pleurant, il continuait de regarder les choses qui l'entouraient, et cela le distrayait. Il s'arrêta un instant de gémir pour observer l'araignée qui venait de bouger. Puis il recommença, mais avec moins de conviction. Il s'écoutait pleurer et continuait son bourdonnement machinal sans plus très bien savoir pourquoi il le faisait. Il se leva bientôt. La fenêtre l'attirait. Il s'assit sur le rebord intérieur, prudemment retiré dans le fond, et surveillant du coin de l'œil l'araignée qui l'intéressait mais qui le dégoûtait. Le Rhin coulait en bas, au pied de la maison. De la fenêtre de l'escalier, on était suspendu au-dessus du fleuve, comme dans un ciel mouvant. Christophe ne manquait jamais de le regarder quand il descendait les marches en clopinant. Mais jamais il ne l'avait vu encore, comme aujourd'hui. Le chagrin aiguise les sens. Il semble que tout se grave mieux dans les regards, après que les pleurs ont lavé les traces fanées des souvenirs. Le fleuve apparut à l'enfant comme un être, inexplicable, mais combien plus puissant que tous ceux qu'il connaissait. Christophe se pencha pour mieux voir. Il colla sa bouche et écrasa son nez sur la vitre. Où allait-il? Que voulait-il? Il avait l'air sûr de son chemin. Rien ne pouvait l'arrêter. À quelque heure que ce fût, du jour ou de la nuit, pluie ou soleil au ciel, joie ou chagrin dans la maison, il continuait de passer. Et l'on sentait que tout lui était égal, et qu'il n'avait jamais de peine, et qu'il jouissait de sa force. Quelle joie d'être comme lui, de courir à travers les prairies, les branches de saule, les petits cailloux brillants, le sable grésillant, et de ne se soucier de rien, de n'être gêné par rien, d'être libre. L'enfant regardait et écoutait avidement. Il lui semblait qu'il était emporté par le fleuve. Quand il fermait les yeux, il voyait des couleurs, bleu, vert, jaune, rouge, et de grandes ombres qui courent et des nappes de soleil. Les images se précisent. Voici une large plaine, des roseaux, des moissons ondulant sous la brise qui sent l'herbe fraîche et la menthe. Des fleurs de tous côtés, des bleuets, des pavots, des violettes. Que c'est beau! Que l'air est délicieux! Il doit faire bon s'étendre dans l'herbe épaisse et douce. Christophe se sent joyeux et un peu étourdi, comme lorsque son père lui a, les jours de fête, versé dans son grand verre un doigt de vin du Rhin. Le fleuve passe, le pays a changé. Ce sont maintenant des arbres qui se penchent sur l'eau. Leurs feuilles dentelées, comme de petites mains, trempent, s'agitent et se retournent sous les flots. Un village parmi les arbres se mire dans le fleuve. On voit les cyprès et les croix du cimetière par-dessus le mur blanc que lèche le courant. Puis ce sont des rochers, un défilé de montagnes, les vignes sur les pentes, un petit bois de sapins et les bourgs ruinés. Et de nouveau la plaine, les moissons, les oiseaux, le soleil. La masse verte du fleuve continue de passer, comme une seule pensée, sans vagues, presque sans plis, avec des moires luisantes et grasses. Christophe ne la voit plus. Il a fermé tout à fait les yeux pour mieux l'entendre. Ce grondement continu le remplit, lui donne le vertige. Il est aspiré par ce rêve éternel et dominateur. Sur le fond tumultueux des flots, des rythmes précipités s'élancent avec une ardente allégresse. Et le long de ces rythmes, des musiques montent comme une vigne qui grimpe le long d'un treillis. Des arpèges de claviers argentins, des violons douloureux, des flûtes veloutées au son rond. Les paysages ont disparu. Le fleuve a disparu. Il flotte une atmosphère tendre et crépusculaire. Christophe a le cœur tremblant d'émoi. Que voit-il maintenant? Oh, les charmantes figures! Une fillette aux boucles brunes l'appelle, langoureuse et moqueuse. Un visage pâleau de jeune garçon aux yeux bleus le regarde avec mélancolie. D'autres sourires, d'autres yeux. Des yeux curieux et provocants dont le regard fait rougir. Des yeux affectueux et douloureux, comme un bon regard de chien. Et des yeux impérieux, et des yeux de souffrance. Et cette figure de femme, blême, les cheveux noirs et la bouche serrée, dont les yeux semblent manger la moitié du visage, et le fixe avec une violence qui fait mal. Et la plus chère de toutes, celle qui lui sourit avec ses clairs yeux gris, la bouche un peu ouverte, ses petites dents qui brillent. Ah, le beau sourire indulgent et aimant. Ils font le cœur de tendresse. Qu'il fait de bien, qu'on l'aime. Encore, souris-moi encore, ne t'en va point. Hélas, il s'est évanoui. Mais il laisse dans le cœur une douceur ineffable. Il n'y a plus rien de mal, il n'y a plus rien de triste, il n'y a plus rien. Rien qu'un rêve léger, une musique sereine qui flotte dans un rayon de soleil, comme les fils de la Vierge par les beaux jours d'été. Qu'est-ce donc qui vient de passer? Quelles sont ces images qui pénètrent l'enfant d'un trouble passionné? Jamais il ne les avait vues, et pourtant il les connaissait. Il les a reconnus. D'où viennent-elles? De quel gouffre obscur de l'être? Et de ce qui fut ou de ce qui sera? Maintenant tout s'efface, toute forme s'est fondue. Une dernière fois encore, à travers un voile de brume, apparaît, comme si l'on planait très haut, au-dessus de lui, le fleuve débordé, couvrant les champs, roulant auguste, lent, presque immobile. Et tout à fait au loin, comme une lueur d'acier au bord de l'horizon, une plaine liquide, une ligne de flot qui tremble, la mer. Le fleuve court à elle, elle semble courir à lui. Elle l'aspire, il la veut, il va disparaître. La musique tournoie, les beaux rythmes de danse se balancent éperdus, tout est balayé dans leur tourbillon triomphal. L'âme libre fend l'espace, comme le vol des hirondelles, ivre d'air, qui traverse le ciel avec des cris aigus. Joie, joie, il n'y a plus rien. ô bonheur infini. Les heures avaient passé, le soir était venu, l'escalier était dans la nuit. Des gouttes de pluie faisaient sur la robe du fleuve des cercles que le courant entraînait en dansant. Parfois une branche d'arbre, quelques écorces noires, passaient sans bruit et s'en allaient. L'araignée meurtrière s'était retirée, repue, dans le coin le plus obscur. Et le petit Christophe était toujours penché sur le coin du soupirail, avec sa figure pâle, barbouillée, rayonnante de bonheur. Il dormait.